Sud Radio, il est 21h.
Parlons vrai.
Tout de suite, les informations.
Bonsoir à toutes et tous. En Nouvelle-Calédonie, 4 personnes sont mortes suite aux émeutes. L'état d'urgence est entré en vigueur sur place à 20h, 5h, heure locale. Le territoire français du Pacifique Sud est en proie à une situation insurrectionnelle après la réforme constitutionnelle votée par l'Assemblée nationale. Un gendarme de 22 ans est décédé après avoir reçu une balle dans la tête. Rien ne pourra jamais justifier la violence, a déclaré Gabriel Attal. Le Premier ministre préside ce soir une cellule de crise interministérielle pour piloter la mise en place de l'état d'urgence. Mohamed Amra, toujours en fuite, le fugitif qui s'est évadé hier lors de l'attaque mortelle d'un fourgon dans l'Eure, fait désormais l'objet d'une notice rouge émise par Interpol. Une minute de silence a été respectée ce matin à 11h dans les palais de justice et devant de nombreux établissements pénitentiaires pour rendre hommage aux deux agents qui ont perdu la vie hier lors de son transfert. Les syndicats réclament des mesures d'urgence. Ils ont été reçus cet après-midi par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, mais appelle déjà à la reconduction du mouvement demain. En Slovaquie, le Premier ministre Robert Fico, grièvement blessé par balle, il a été pris pour cible cet après-midi après une réunion du cabinet de ses ministres. Le chef du gouvernement slovaque est entre la vie et la mort ce soir. Le recours de la Ligue des droits de l'homme contre le couvre-feu instauré à Béziers rejeté, c'est la décision du tribunal administratif de Montpellier. Ce couvre-feu a été instauré pour les mineurs de moins de 13 ans dans la commune de Robert Ménard du Rassemblement national. L'association annonce son intention de se pourvoir en cassation en saisissant le Conseil d'État. Et puis du foot, séance de rattrapage ce soir en Ligue 1. On joue deux matchs en retard de la 32e journée. Le PSG joue à Nice. Gros enjeu pour les Niçois déjà assurés de jouer au moins la Ligue Europa, mais qui peuvent encore rêver de Ligue des Champions. L'autre affiche du soir oppose Reims à Marseille. Rien à jouer pour les Rémois. En revanche, l'OM reste en course pour une qualification européenne. Coup d'envoi pour les deux matchs, 21h. Très bonne soirée à tous.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre passion de la musique vous a permis depuis 50 ans d'attribuer de bonnes et de mauvaises notes, en particulier à des légendes du rock que vous avez croisées dans des situations parfois rocambolesques. Le titre justement du livre où vous évoquez ces souvenirs. Bonjour Sacha Reims.
Bonjour Jacques.
Alors, on vous connaît, on connaît votre signature comme critique musicale depuis 50 ans et vous avez raconté votre vie dans un livre rocambolesque aux éditions Équateur, et on va évoquer cette vie à travers des dates clés. C'est le principe des clés d'une vie sur Sud Radio, et on a plein de choses à se dire parce que vous avez rencontré beaucoup de monde. Alors la première date que j'ai trouvée, elle vous concerne pas directement, mais le 23 juillet 2009, quelqu'un que vous connaissez bien est immortalisé de son vivant. Ce jour-là, je ne sais pas si vous le savez, il est à Cognac, dans le cadre du festival Blue Passion, et il devient citoyen d'honneur de la ville et il dévoile la plaque d'une rue à son nom.
Je l'ignorais.
Vous ne savez pas ? Vous n'étiez pas là. Et il y a une rue à Cognac, B.B. King. Et c'est vrai que c'est un honneur très rare de son vivant.
Absolument, oui.
Alors, B.B. King s'appelle, je crois, Riley B. King. C'est un guitariste de blues américain qui a eu une influence considérable sur de nombreux musiciens, mais aussi sur vous, je crois.
Ah oui, oui, ma rencontre avec lui a totalement bouleversé ma vie.
Alors, ça se passe, je crois, le 30 avril 69.
C'est ça, à Strasbourg, oui. Et il venait jouer à Strasbourg, et l'organisateur du concert, qui me connaissait, qui savait que je parlais anglais déjà, m'a demandé si je voulais bien aller le chercher à l'aéroport, m'occuper de lui, voir qu'il n'y ait pas de problème avec les hôtels, la salle, le soundcheck, en l'échange de quoi il me donnait 2 billets pour le concert.
À l'époque, vous ne faisiez rien, vous étiez jeune.
Oui, je ne faisais rien du tout. Non, j'étais un jeune glandeur.
Donc vous le recevez ?
Donc je le reçois. Il est très étonné parce que, d'abord, c'était la première fois qu'il donnait un concert en dehors des États-Unis. Et il était très étonné de voir un jeune blanc d'une vingtaine d'années connaître son répertoire et sa musique aussi bien, voire mieux que lui. Et donc je me suis occupé de lui ce soir-là et le lendemain également. Et le lendemain, il m'a dit « Écoute, c'est très bien, tu t'es très bien, t'as très bien géré tout ce qu'on avait à traverser. Là maintenant, on part en tournée en Europe de 3 semaines environ. Si tu veux, viens avec nous et tu t'occuperas de ça. On peut pas te payer, mais tous tes frais seront pris. » J'ai évidemment accepté immédiatement.
Voilà. Il se trouve que vous avez même géré des problèmes que vous n'auriez pas dû gérer. Il y avait une chanteuse qui l'accompagnait qui n'avait pas de chambre à son nom.
Oui, c'est ce qu'elle avait prétendu un soir, oui. En fait, c'était plus ou moins la petite amie de B.B. King qui en avait trouvé une autre. Enfin, c'était extrêmement compliqué, les histoires de sexe de B.B. King.
Je crois qu'on lui reconnaît une quinzaine d'enfants au minimum.
Oui, lui, il en connaissait 16.
Ah, quand même.
Oui, il connaissait 16 enfants. Et bien sûr, il n'excluait pas qu'il y en ait bien d'autres dans la nature.
Il y a un autre personnage comme ça, c'est le père d'Edith Piaf, Louis-Alphonse Gassion, qui avait des maîtresses dans chaque ville. Et Piaf a toujours dit qu'elle avait sans doute une demi-douzaine de demi-sœurs qu'elle n'a jamais rencontrées. Alors, B.B. King, la musique, vous la connaissiez depuis toujours, Sacha Reims?
Oui, je m'étais... grâce à Daniel Filipacchi et Frank Teno et leur émission Pour ceux qui aiment le jazz, depuis ma très jeune adolescence, déjà vers 12-13 ans, j'écoutais de la musique, j'écoutais leur émission et je m'intéressais au jazz et au blues.
Ouais, mais B.B. King, c'était quelque chose de particulier ?
Non, pas particulièrement. Non, enfin, pour moi, c'était le plus grand à l'époque, mais non, c'était...
C'était quelqu'un que, parmi d'autres, que vous n'imaginez pas rencontrer. Il faut savoir aussi que pour ceux qui aiment le jazz, ça a débuté parce qu'à Europe numéro 1, il n'y a pas de discothèque à l'époque, je ne sais pas si vous le savez. Il faut quelqu'un qui ait des disques. Donc on appelle Daniel Filipacchi, photographe et collectionneur de disques. Il vient le soir à l'antenne avec Frank Teno, qui ne connaît pas, et on connaît la suite.
Absolument, oui.
Alors, vous êtes né à Périgueux et vous avez grandi à Strasbourg.
Oui. Bon, parce que mes parents... Ils se sont rencontrés à Périgueux et c'est là où je suis né. Ils sont très vite partis s'installer à Strasbourg.
D'ailleurs, il y a beaucoup de musiciens à Strasbourg, dans tous les genres. Il y a Cookie Dingler, il y a M. Pokora, il y a Pierre Schirrer qui a travaillé avec Bowling dans son big band. C'est assez curieux.
Oui, j'ai bien connu à l'époque Cookie Dingler. Et je me souviens, on passait nos week-ends chez lui à écouter les premiers disques des Rolling Stones, de Bob Dylan, etc.
Voilà. Et c'est vrai que la musique vous intéressait sans imaginer le métier que vous feriez, Sacha.
Non, effectivement.
Alors, je crois que vos études, c'est au lycée Fustel de Coulanges. Je crois que c'est un professeur qui a défini la patrie comme une communauté d'idées, de sentiments et d'espérance.
Ah, je me souviens pas de ça.
Et parmi les anciens élèves, je sais pas si vous le savez, il y a Jules Ferry.
Ah non, j'ignorais.
Voilà. Et en revanche, vous n'avez pas fait, comme aurait dit Jules Ferry, un travail extraordinaire à l'école, Sacha Reims.
Non, effectivement. Non, j'étais je ne comprenais rien à rien, à part tout ce qui touchait la littérature et l'écriture. Tout le reste, je ne connais les maths, etc. Ça me passait tout à fait au-dessus.
Et le bac, alors ?
Je ne l'ai pas passé.
Ça ne vous a pas posé de problème ?
Non.
Et vos parents non plus n'ont rien dit ?
Oh, ils n'étaient pas contents, mais enfin bon... Ils espéraient que je trouverais quelque chose à faire dans ma vie.
Alors, vous avez trouvé quelque chose à faire parce que une fois que vous avez fait la tournée avec B.B. King, il vous a dit « rejoins-moi aux États-Unis ». C'est-à-dire ce que Piaf a dit aussi à Aznavour, sauf que quand il est arrivé là-bas, elle avait oublié qu'il devait venir. Et pour pouvoir vous offrir le billet, vous avez vendu des encyclopédias Universalis.
Absolument, porte à porte, oui, je me souviens très bien de ça. Parce qu'effectivement, quand on s'est quitté avec B.B. King à Paris à l'occasion de son dernier concert à Playel, de cette tournée, il m'a dit « si un jour tu viens aux États-Unis, j'ai un boulot pour toi ». Le malheureux, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit ? Trois mois après, je débarquais.
Et alors, et ces encyclopédies, c'était vraiment quelque chose qui se vendait très bien à l'époque.
Ah oui, absolument. Oui, je me souviens avoir gagné pas mal d'argent avec ça. Et...
Parce qu'on les achetait, on les mettait dans la bibliothèque, mais on les ouvrait pas.
Jamais.
Et vous savez que c'est une encyclopédie qui s'est vendue d'après un produit américain, c'était une licence américaine au départ, et le rédacteur en chef du premier encyclopédia Universalis s'appelait Claude Gregory, c'était le beau-frère de Francis Blanche. Donc vous partez à New York finalement,
oui,
et vous n'êtes pas attendu.
Ah ben non, je me rends compte, il me voit, il jouait au festival de Newport, donc je vais le rejoindre là-bas, et quand il me voit arriver dans sa loge, il est à la fois content, amusé, et puis il me dit « mais enfin, tu aurais pu prévenir, on vient pas comme ça ». Donc je comprends que l'offre qu'il m'a faite, c'était une offre voilà sympathique, qu'il pensait certainement à ce moment-là, mais il ne pensait pas que je viendrais.
Et donc vous arrivez, qu'est-ce qui se passe ?
Bah, il me dit, écoute, je suis embêté, j'ai rien pour le boulot que j'avais pour toi, pour l'instant n'est pas disponible, installe-toi à New York, trouve du boulot, vis, et dès que le poste sera disponible, je t'appelle. Donc je me suis installé à New York, persuadé qu'il ne me rappellerait jamais, et voilà, et j'ai commencé à travailler à droite et à gauche dans les restaurants, faire la plonge, serveur, etc.
C'était facile à l'époque de trouver du travail pour un étranger ?
Oui, c'était relativement facile, effectivement, surtout dans la restauration, où j'avais toujours besoin de personnel.
Et d'ailleurs, vous avez même cohabité avec un musicien qui voulait absolument vous prendre comme manager.
Ah oui, Errol Parker, oui, qui était un musicien français installé aux États-Unis et qui végétait là en jouant de temps en temps dans des clubs, etc. Et que je connaissais avant, je l'avais rencontré au festival de Jean Lépin quelques années auparavant.
Et puis, ça n'a pas marché.
Non, bien sûr que non, ça n'a pas marché. Et très curieusement, je veux dire que j'avais perdu tout espoir, un an plus tard, B.B. King m'appelle en disant « Bon, mais le boulot que j'avais pour toi s'est libéré, tu viens demain, on commence tout de suite. »
Voilà. Alors il se trouve aussi que pendant cette période, vous avez été busboy. C'est un métier qu'on connaît peu en France, mais qui est le plus bas de l'échelle dans la restauration.
Ah oui, totalement, oui.
Ça consiste en quoi ?
Simplement nettoyer les tables de restaurant. On n'a pas le droit de parler aux clients, on n'avait pas le droit encore moins de prendre des commandes. On était là uniquement pour nettoyer les tables.
Voilà. Mais il fallait parler anglais aussi.
Oui.
Ça, vous parliez anglais, c'était une matière à l'école que vous aviez suivie.
Oui, puis j'étais parti plusieurs fois à Londres, passé quelques mois à Londres, et donc oui, je commençais à parler correctement.
Et puis, dans ce restaurant où vous étiez donc des serveurs, vous avez fait la connaissance d'une jeune serveuse totalement inconnue à l'époque. Debbie Harry, Blondie, qui a vendu, je crois, 40 millions de disques dans le monde, qui a chanté dans ce restaurant, le Max Kansas City, où elle était serveuse en même temps que vous.
Absolument. En fait, on travaillait ensemble, elle était la serveuse et moi j'étais le busboy. Et bien sûr, elle ne m'adressait pas la parole parce qu'il y a une hiérarchie, on ne parle pas au busboy. C'était une brunette. Et je n'ai pas vu sa carrière parce que je ne l'ai pas reconnue ensuite physiquement, mais je l'ai rencontrée il y a quelques années pour une interview. Et au cours de l'interview, on s'est rendu compte que effectivement, on avait travaillé ensemble au Max Kansas City et qu'elle était devenue entre-temps Blondie et que je ne le savais pas.
C'est fou, hein. Elle était étonnée de vous voir comme journaliste.
Oui, elle était très étonnée. Et puis elle m'a dit, je suis content de voir que tu t'es élevé dans la société. Quand elle m'a connu, je nettoyais des tables.
Voilà. Mais effectivement, on peut réussir aux États-Unis, alors que c'est beaucoup plus facile qu'en France, j'ai l'impression, quand on a un talent.
Je pense, oui. Enfin, en tout cas, à l'époque, ça l'était. Ça l'est moins maintenant.
C'est autre chose.
Oui, c'est autre chose.
Et le métier de journaliste, vous pensiez un jour l'exercer, Sacha Reims ?
Non, pas vraiment. Je lisais les journaux de l'époque, Jazzot, Jazz Magazine, SLC, et effectivement, ça m'aurait bien plu d'écrire pour eux.
Ben voilà, c'est ce qui s'est passé, et on va en parler avec une autre date importante dans votre vie, mais qui ne vous concerne pas directement, le 21 septembre 1968. À tout de suite sur Sud Radio avec Sacha Reims.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Vous faites bouger les lignes, vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir, vous êtes sensible à la richesse de nos territoires. Retrouvez chaque mois chez votre marchand de presse le magazine optimiste Eco-Réseau Business. Au menu, des conseils pratiques, des solutions, des portraits d'entrepreneurs inspirants, des entreprises qui font l'actualité et bousculent les codes. Pour 5 euros seulement, osez Eco-Réseau Business, le magazine de tous les entrepreneurs. Eco-Réseau Business, pour entreprendre, innover et positiver.
Sud Radio Antibes.
97.9.
Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité, Sacha Reims. Votre livre rocambolesque aux éditions Équateur parle de votre parcours de journaliste et de critique musicale depuis une cinquantaine d'années, avec des gloires que vous avez rencontrées. On va continuer à les évoquer. Et le journalisme, ça a commencé avec un journal qui est né le 21 septembre 1968, Best, un journal que vous avez découvert à Strasbourg, je crois.
Absolument. Oui, j'ai acheté les deux journaux qui existaient à l'époque, c'est-à-dire c'était Best et Rock et Folk. Et plus tard, donc, quand j'ai commencé à travailler avec B.B. King, je me suis retrouvé dans des situations assez exceptionnelles. Et je me suis dit, ce serait bête de ne pas en profiter. Donc j'ai fait un jour un papier sur je ne sais plus quel concert que j'avais assisté, de là-bas, aux États-Unis, et je l'ai envoyé à Best en leur disant, si ça vous plaît, publiez-le, sinon... tant pis, une autre fois. Et ils m'ont répondu immédiatement en me disant, non, c'est très bien, on le publie, envoie-nous des trucs tous les mois.
Et là, vous n'aviez jamais écrit des articles ?
Non, jamais, non.
Vous n'avez pas appris non plus, ça a été instinctif ?
Oui, enfin, je lisais beaucoup, je lisais énormément, donc oui, c'était instinctif, mais en même temps, j'avais une espèce de connaissance des mots quand même.
Alors, Best, il se trouve que c'était le journal le plus populaire de la presse rock. Rock et Folk était beaucoup plus intellectuel, comme on dit. Et il se trouve que le rédacteur en chef de Best, Jacques Morlin, avait débuté dans Disco Revue et avait ce journal Best, parmi les investisseurs, il y avait le secrétaire de Charles Aznavour.
Ah, je l'ignorais.
Voilà, c'est assez étonnant. Donc, finalement, vous commencez à écrire, c'est sur ce Joe Cocker, je crois, le premier.
Oui, c'était ça. C'était sur un concert de Joe Cocker.
Et puis, donc, vous commencez à travailler avec B.B. King, puisqu'il vous reprend, il vous appelle un jour, il vous dit, ben, viens avec moi.
Absolument, oui, c'est comme ça. Rendez-vous demain, on part, je ne sais plus où, mais on partait.
Vous êtes devenu quoi, son secrétaire, son assistant ?
Oui, j'étais secrétaire, assistant, j'étais responsable qu'il soit, lui, à l'heure, tous les jours, au concert, au soundcheck, pour aller prendre l'avion, etc. Lui et sa guitare.
Oui, Lucille que vous
Lucille,
gardez.
Oui.
Vous savez pourquoi elle s'appelait Lucille ?
Oui, je sais, oui. Parce qu'un jour, B.B. King jouait dans un petit club de blues dans une banlieue d'une grande ville, et il y a eu un incendie. Donc ça s'est mis à brûler de partout. Il est parti en courant, et une fois qu'il était dehors, il s'est rendu compte qu'il avait oublié sa guitare à l'intérieur. C'était pour lui, c'était une catastrophe. Donc il est retourné dans ce club en flammes, il a récupéré sa guitare, il est ressorti, et au moment où il est sorti, tout s'est écroulé. Et le lendemain, il a lu dans un journal que cet incendie avait démarré parce que deux hommes avaient renversé le poêle qui chauffait et se battaient en se battant à cause d'une femme qui s'appelait Lucille.
C'est né comme ça.
Voilà, donc il...
Alors votre mission, justement, Sacha Rein, c'est de le suivre 300 jours par an, mais de le réveiller le matin, ce qui n'est pas facile toujours.
C'est pas toujours facile parce qu'il n'est pas toujours seul et que parfois il n'est carrément pas dans sa chambre. Et il m'est arrivé deux, trois fois où j'allais le réveiller. Donc je rentrais dans sa chambre parce que j'avais toujours un double des clés et je tombais sur une dame toute seule qui était là et lui, il n'était pas là. Donc dans ces cas-là, je devinais qu'il était dans une autre chambre avec une autre dame et à ce moment-là, il fallait que je cherche où il pouvait être. Je descendais à la réception, j'expliquais ce qui se passait. Je disais, dites-moi où est B.B. King là maintenant. C'était très particulier parce que souvent, on descendait dans des hôtels uniquement fréquenté par des Noirs, et j'étais le seul blanc dans cette histoire, et je cherchais B.B. King. Enfin, c'était assez cocasse. Souvent.
Et à chaque fois, il n'était pas frustré de savoir que vous l'aviez retrouvé, qu'il avait changé de chambre ?
Non, pas du tout. Non, mais c'est moi qui l'ai engueulé en disant, écoute, si tu vas dans un truc, au moins préviens-moi.
Bon. Alors, vous avez aussi un record, je crois, Sacha Rein, c'est celui de la course de lenteur au Festival d'Atlanta. C'est-à-dire que vous étiez dans une voiture qui a, je crois, roulé à 1 cm à l'heure, pas plus.
Absolument, oui, on jouait, enfin, il jouait à Atlanta, et on était pas, donc on est parti dans l'après-midi en voiture pour le soundcheck, etc. Et c'était absolument un cauchemar, parce qu'il n'y avait qu'une seule route pour y aller, c'était archi-comble, et effectivement, on avançait à 10 cm de la minute, quoi. Et en arrivant, enfin, on a mis facilement 3 heures pour faire 20 kilomètres. Et en arrivant à l'endroit, des gens nous font signe. On avait bien sûr les laissés passer sur la voiture. Et les gens nous indiquent, enfin quelqu'un nous ouvre une porte en disant c'est par là. Donc j'y suis allé, on est tombé en plein milieu dans la foule.
150 000 personnes.
Oui, absolument.
Et il fallait aller de l'autre côté.
Il fallait aller de l'autre côté, traverser tout le stage en plein milieu de la foule.
Alors comment vous avez fait ?
J'avançais très très lentement, là c'était vraiment un centimètre par minute, au milieu de la foule, avec le klaxon bloqué.
Et vous auriez pu vous faire lyncher.
Ah oui, bien sûr.
Et puis il se trouve que moi je me suis un peu renseigné sur le record de vitesse, l'inverse, et c'est une SSC Tuatara qui détient le record de vitesse des véhicules de série, 532 km/h au compteur. Bravo. C'est quand même un record.
Oui.
Alors, vous avez aussi croisé les plus grandes stars, dont celle-ci.
Summer, time,
Janis Joplin, Summertime, le thème le plus connu de Porky and Bess, qui a été créé d'ailleurs par une inconnue qui s'appelait Clara, un personnage secondaire dans la première version de cet opéra de Gershwin. Et c'est vrai que vous l'avez rencontré un jour et qu'il y a un courant qui est passé entre vous deux.
Oui, si on veut, elle m'a trouvé très sympathique et certainement consommable, et elle m'a invité à aller passer la fin de soirée. C'est-à-dire, on était à une émission de télévision, d'aller passer la fin de soirée chez elle.
Oui.
Et moi, j'étais moyennement partant, et B.B. King qui était là. Alors en plus, elle est allée demander à B.B. King qu'est-ce que je peux emmener ton assistant à la maison. Je te le rends demain matin en pleine forme. Est venu me voir en me disant, écoute, si tu vas là-bas, tu sais que vous n'allez pas fonctionner à l'eau, vous allez fumer des trucs, prendre des choses, et moi je veux que tu sois demain matin à 5h30 à la porte de ma chambre, si tu n'es pas là, je te remplace. Et effectivement, ça, je me suis dit, je peux pas risquer cet extraordinaire boulot pour aller passer une soirée et me défoncer avec Janis Joplin. Donc, j'y suis pas allé. Et voilà.
Et d'ailleurs, quelques mois plus tard, elle a poussé son dernier soupir.
Absolument,
à la suite
ouais.
de ses abus. Et puis, vous avez eu quand même une engueulade un jour avec B.B. King lorsque vous avez osé ramener une femme blanche en coulisses.
C'était pas tout à fait en coulisses. C'était, on avait un minibus et je l'avais amené dans le minibus pour rentrer après le concert à l'hôtel. Et effectivement, il m'a engueulé, ce qu'il ne faisait jamais. C'était un homme absolument délicieux. Mais il m'a dit qu'il ne fallait plus jamais que je fasse ça parce que si on avait été, il était encore traumatisé par les lois racistes de l'époque. Et il me dit si on s'était fait arrêter pour un contrôle quelconque et qu'on avait vu une femme blanche dans un véhicule où il n'y a que des blacks, on aurait tous été arrêtés.
Voilà. Et puis, vous avez changé d'avis en découvrant, lors d'un concert de B.B. King, je crois, à Las Vegas, au César Palace, Frank Sinatra, que vous n'aimiez pas du tout, Sacha Reims.
Oui, non, c'était pas du tout à l'époque ma musique, ni j'aimais ça. Mais nous sommes passés environ une dizaine de jours au César Palace et à la même affiche que Frank Sinatra.
Et là, vous avez eu le privilège de pouvoir aller dans la salle, ce qui n'était pas évident.
Oui. Et puis bon, je pouvais effectivement aller et dans la salle et un peu sur le côté, sur les coulisses. Et j'ai donc assisté à une dizaine de concerts de Frank Sinatra. Et là, je me suis rendu compte à quel point le mec était le plus grand chanteur du monde.
Vous savez qu'il chantait My Way et Stranger in the Night tous les soirs, mais qu'il détestait ces deux chansons parce qu'il ne se reconnaissait pas dans les textes.
Absolument, oui.
C'est assez particulier.
Oui.
Et à Las Vegas, vous avez aussi croisé Lynn Renault et Lulu Gasté.
C'était pas à Vegas, il s'occupait à l'époque d'un casino-hôtel près de Lake Tahoe.
Oui.
Et oui, c'est là où on est effectivement passé là-bas une semaine. Et c'était elle qui dirigeait un peu tout le côté spectacle. Et donc j'ai fait sa connaissance et celle de son mari, Lulu Gasté.
Oui, qui était un passionné de musique aussi.
Absolument.
Et même
oui.
de la musique qui n'est pas forcément celle qu'il composait.
Oui, mais il avait joué avec Django Reinhardt. Django Reinhardt qui fascinait B.B. King. Donc les deux hommes avaient plein de choses à se raconter.
Un seul regret, c'est d'avoir renoncé à un concert d'Elvis Presley.
Ah oui, ça c'est la grande connerie de ma vie, enfin une des. J'ai fait connaissance de Tom Jones un soir au Caesars Palace à une partie que donnait B.B. King et on a sympathisé naturellement parce qu'on était les deux seuls blancs de la partie de la soirée et on avait le même âge etc et on a sympathisé, on a beaucoup discuté et il m'a dit tiens demain si tu ne fais rien, effectivement je ne faisais rien parce que c'était lundi, je vais voir Elvis, je t'emmène si tu veux et connerie, j'y suis pas allé.
Comme ça, pas envie.
Pas envie. J'aimais plus Elvis à l'époque. Je trouvais qu'il avait un peu trahi le rock. Et c'était l'époque où il était avec ses accoutrements blancs et qui chantait comme beaucoup de guimauves. Et à cette époque, je ne l'aimais plus, donc je n'y suis pas allé.
Et vous l'avez regretté?
Ah oui. Et j'ai revu Tom Jones une trentaine d'années plus tard à Londres pour la sortie d'un de ses albums. Et je lui ai rappelé cette histoire. Je lui ai dit, écoute, bien sûr, tu ne t'en souviens pas, mais tu m'avais proposé de, hein, et je n'y suis pas allé comme un con. Il m'a dit, ah oui, vraiment, c'est vraiment con, parce qu'en plus, Elvis était toujours avec un photographe qu'il prenait en photo avec tous les gens qui venaient le voir. Et là, aujourd'hui, tu aurais une photo avec Elvis. Moi, j'ai la mienne encore.
Et la valeur dans une vente d'une photo avec Elvis, c'est 3 000 $ aujourd'hui.
Ah, j'ignorais.
D'autres choses qu'on ignore sur vous et qu'on va découvrir dans quelques instants à travers une autre date, le 19 octobre 2003. A tout de suite sur Sud Radio avec Sacha Reims.
Sud Radio.
Sud Radio. Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Saviez-vous que la production de collagène diminue à partir de 20 ans ? Pour une peau repulpée et sublimée, découvrez Manae Collagène Expert, le complément alimentaire qui associe collagène et acide hyaluronique dans une seule gélule. Retrouvez toute la gamme Manae en pharmacie et parapharmacie. Manae, une marque VitaVea. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Sud Radio à Chalon-sur-Saône en DAB+.
Sud Radio. Tout savoir sur le bien-être au féminin avec Manae. Dans un instant, nous parlerons d'une solution complète pour se préparer au soleil tout en préservant sa peau. A tout de suite.
On retrouve Jacques Pessis et les clés d'une vie dans quelques instants sur Sud Radio. Clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Sacha Reims, critique musicale, journaliste depuis 50 ans. Vous publiez Rock embolesque chez Équateur, on en parle tout au long de l'émission puisque les souvenirs qu'on évoque sont dans ce livre. Et j'ai trouvé une date très particulière, le 19 octobre 2003. D'après ma connaissance, c'est votre première et rare télé, Les coulisses du pouvoir, avec Daniela Lombroso, où vous parlez de la fascination du pouvoir d'Arnold Schwarzenegger.
Vous vous souvenez de cette télévision ?
Ah oui, 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 je me souviens.
C'est rare de vous voir à la télé.
Oui, pas... oui, je faisais assez peu d'émissions. Et là, elle m'avait invité à venir parce que pour parler de Schwarzenegger, qui venait effectivement de se déclarer candidat ou lui avait été ou être gouverneur de.
C'était un mois avant qu'il devienne gouverneur.
Voilà, c'est ça, oui. Et tout le monde, oui, me faire parler pour c'est la politique et lui.
En même temps, Schwarzenegger, ça n'a rien à voir avec B.B. King.
Ah non, non, rien du tout, non. Mais à l'époque, je travaillais donc pour Le Point, et je ne sais pas pourquoi, mais ils m'ont demandé d'aller interviewer Schwarzenegger à l'occasion de la sortie de Terminator 2.
Voilà. Et en même temps, c'est un personnage qu'on avait vu à Cannes la première fois, totalement inconnu et qui avait fait un immense parcours. Et je crois que son goût pour la politique s'est né parce qu'un jour, il rencontre Jackie Onassis. Il parle un quart d'heure avec elle. Et il lui a dit que JFK était un synonyme de l'Amérique. Et ensuite, il est rentré dans la famille des Kennedy, pratiquement. Mmh. Mais il aurait pu être président des États-Unis, non ?
Oui, il aurait pu le devenir s'il était né aux États-Unis.
Voilà.
Le problème, c'est qu'il y a une loi qui interdit... quand on n'est pas né aux États-Unis, qui interdit qu'on soit président.
Il a été gouverneur de Californie, comme quelqu'un d'autre qui est devenu lui président, qui était Ronald Reagan.
Mm-hmm.
Alors, le point justement, vous êtes arrivé au point après Best, ça a été votre premier travail fixe dans un journal. Vous êtes arrivé parce qu'il y avait une place à prendre.
Oui, c'est ça, oui. Travail fixe, oui. En fait, moi, je n'ai jamais appartenu physiquement, quotidiennement à une rédaction. J'ai toujours été freelance. Donc, oui, j'ai travaillé au Point pour environ 35 ans, mais j'avais pas de bureau là-bas.
Non, vous faisiez des articles sur la musique.
Oui.
Vous êtes arrivé comme ça par hasard, on venait vous chercher ?
Parce que, oui, on est venu me chercher, parce que le rédacteur en chef avait lu un de mes papiers dans, je sais plus, Rock et Folk ou Best, sur Michael Jackson. Il m'avait demandé d'en faire un pour Le Point.
Et vous êtes arrivé pour un papier, vous êtes resté 35 ans.
Voilà.
Et c'était une famille, Le Point, à l'époque. Il y avait un rédacteur en chef, Jean Schmitt, qui, lorsqu'il partait en vacances, rédigeait un testament pour ses successeurs, en faisant, peut-être que je ne reviendrai pas un jour. C'était une vraie famille de journalisme, comme on en voit peu aujourd'hui.
Oui, exactement. Et à l'époque, c'était Pierre Biard qui était rédacteur en chef culture. Et j'ai beaucoup aimé cet homme.
Et ce journal était une indépendance totale. Vous avez travaillé en toute indépendance.
Totalement.
D'ailleurs, vous êtes quelqu'un qui a toujours travaillé en toute indépendance.
Toujours.
Alors, vous allez faire des tas d'interviews de stars du rock'n'roll, ce qui n'est pas évident, parce que ces personnalités ne sont pas toujours accessibles.
Et elles ne sont pas très faciles non plus.
Alors, comment on fait justement pour obtenir un rendez-vous en tête-à-tête, ça relève de l'exploit.
Écoutez, ça dépend aussi pour quel média on travaille. Il est certain que quand je travaillais que pour Best et que je demandais... n'importe quoi, David Bowie pour Best, ça l'intéressait moins que s'ils étaient pour Le Point.
Voilà. Et il se trouve que ces gens-là vous recevaient, et petit à petit vous vous êtes fait une image, on a commencé à vous recevoir parce qu'on savait que vous faisiez ça.
Absolument.
Alors, on se crée aussi des amitiés pendant ces années-là.
Oui, on se crée des amitiés, et je suis devenu assez copain avec les Who, et en particulier avec Roger Daltrey. Et aujourd'hui, je suis toujours très ami avec Roger. Et on se voit, chaque fois qu'il vient jouer à Paris, on dîne ensemble la veille. Et on s'écrit régulièrement.
Voilà. Et justement, les Who, l'un de leurs succès, c'est Pinball Wizard. C'est l'extrait d'un concert à l'île de Wight en 70. Ils ont joué un peu partout, les Who.
Oui.
Mais ce qui est étonnant, c'est que ce groupe, au départ, s'appelait les Détours. Ils sont aperçus qu'il y avait un groupe qui portait le même nom. Ils sont devenus les Who, ce qui ne veut rien dire au départ.
Ce qui ne veut rien dire, non.
Alors, vous l'avez connu comment, Roger Daltrey ?
Ben, en faisant un papier, justement, pour le journal de musique, pour Best. J'étais allé en Angleterre et j'avais fait trois interviews, une de Roger Daltrey, l'autre de Pete Townshend et le troisième... Non, j'en ai fait que deux. J'ai fait que Pete et Roger. Et sans savoir pourquoi, Roger et moi, on est devenus très amis.
Mais c'est quelqu'un qui avait confiance en vous, parce que ce sont des musiciens qui n'ont pas toujours confiance dans les journalistes.
Oui, absolument. Et puis ils se sont vite rendus compte que je ne les trahissais pas, je pouvais assister à des choses privées dont il ne fallait pas parler, et je n'en parlais pas.
Alors, il y a eu un jour une bagarre, je crois, à Birmingham, entre Pete et Roger, à laquelle vous avez assisté, Sacha Reims.
Oui. Ils se disputaient souvent, et là, je ne me souviens plus quelle était... Oui, non, c'est parce que... Roger avait fait une remarque à Pete qui était arrivé en retard à la répétition. Et ils ont commencé à s'engueuler. Et à un moment donné, Pete a pris sa guitare et a cherché à assommer Roger avec elle. Il n'a pas réussi. Et à ce moment-là, Roger a donné un coup de poing, enfin, a assommé Pete Townshend.
Oui, ça s'est arrangé ensuite.
Oui, bien sûr.
Alors, il se trouve aussi que c'est le problème des rockers, c'est de vieillir. Et les Who sont toujours là, ce qui est quand même assez rare.
Oui, il y a quelques groupes, les Who, les Stones, ouais. Ils ne sont plus très nouveaux, mais voilà, ils sont toujours là.
Mais ce qui n'est pas simple, notamment pour Roger Daltrey, c'est de conserver sa voix au fil des années. Je crois d'ailleurs qu'en Floride, il a annulé un show au milieu parce qu'il ne parvenait plus à chanter.
Il a de temps en temps des accidents, effectivement, avec sa voix. Ça devait lui arriver une fois tous les deux ans à peu près. Sa voix se casse en plein concert et il faut malheureusement arrêter.
Et Roger comme Pete, ils ont peur de vieillir. Pete a une grande peur de vieillir. C'est ce qu'il a toujours dit.
C'est possible, oui, oui. Oui.
C'est assez dur quand on a été jeune rocker de finir vieux rocker, non ?
Je ne sais pas.
Et c'est aussi le cas d'ailleurs de quelqu'un qui tient une forme hallucinante. On l'écoute, Hungry. Les Rolling Stones, Mick Jagger, lui, il tient à 80 ans une forme hallucinante.
Oui, incroyable.
Comment vous l'expliquez ?
Depuis 30 ans, il ne fait plus rien. Je veux dire, il ne prend plus d'alcool, il ne boit plus rien. Et depuis 30 ans, il a dans son entourage un coach diététicien qui le fait travailler tous les jours et qui lui fait ses repas tous les jours.
En fait, je crois qu'il vit maintenant souvent dans un château en France.
Oui.
Ce château, il l'a acheté parce qu'il passait ses vacances avec ses parents juste devant et il faisait du camping à l'époque. Et il a dit, tiens, un jour, j'achèterai ce château, ce qu'il a fait. Et là, je crois que son régime, c'est danse, gymnastique douce, 13 km de course par jour. Et dans son minibar, il y a des smoothies et des vitamines et des avocats.
Absolument.
Et c'est vrai que comment on parvient à changer comme ça, alors que pendant des années, on est un peu tombé dans la drogue.
Oui, absolument. Et ça lui réussit de façon absolument extraordinaire, parce qu'effectivement, il a une forme qui est toujours sidérante.
Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à 45 ans, il disait « j'arrêterai, je vais arrêter bientôt, j'arrêterai à 50 ans, parce que je préfère être mort que chanter Satisfaction à 50 ans ».
Oui, c'est des choses qu'on dit quand on est jeune. Et puis, et j'en parlais avec lui il y a quelques années et il me disait, comme Keith Richards, ils m'ont dit tous les deux que tant qu'ils pourraient le faire et qu'il y aurait des gens pour venir les voir, eh bien, ils le feraient.
Voilà. Alors, vous avez assisté à son anniversaire il y a un demi-siècle, quand c'est pour ses 30 ans, je crois,
oui.
Aux États-Unis,
oui.
Sacha.
Oui, oui, absolument. J'ai assisté à son anniversaire qui se passait dans... au dernier étage d'un grand hôtel Saint-Régis, je crois. Et voilà.
À New York, oui.
Oui, c'était assez étonnant. Il y avait Bob Dylan, il y avait Neil Young, il y avait plein de gens. Je crois que j'étais le seul mec pas connu de la soirée.
Je crois qu'il y avait une danseuse nue qui est sortie d'un gâteau.
Oui.
On ne pourrait pas imaginer ça aujourd'hui.
Non, aujourd'hui, non.
Et Bob Dylan, vous lui avez serré la main, je crois.
Oui, je suis allé le voir et je lui ai dit, écoutez, j'ai juste envie de vous serrer la main. Donc, on s'est serré la main, il m'a souri.
Il était très timide déjà.
Il était très spécial, oui. Il ne parlait pas beaucoup. Enfin, je veux dire que j'ai jamais interviewé, par exemple. J'ai jamais rencontré pour une interview. J'ai demandé pendant 30 ans et ça a toujours été non.
Comment ça se fait ?
Il n'aime pas ça.
Je crois que même quand il a remporté le prix Nobel, il devait envoyer un discours sous peine de perdre ses 800 000 dollars. Et il l'a envoyé la veille de la clôture de la date prévue.
Oui, mais il a écrit son discours et il l'a fait lire par... par son amie chanteuse, son nom m'échappe.
Mais enfin, il n'a pas voulu aller là-bas.
Non, il n'y est pas allé, non.
Et Hugo Frey m'a raconté, parce qu'il a quand même été très proche de lui, que même lui n'arrive plus à franchir le barrage des quelques personnes qui l'entourent.
Absolument, oui.
Pensiez que Dylan aurait le prix Nobel, Sacha Reims ?
Non, jamais. Non. Ça a été une énorme surprise pour tout le monde.
Et une reconnaissance peut-être de...
Une reconnaissance des textes extraordinaires qu'il a écrits toute sa vie. Ouais.
Vous avez toujours été fasciné par ces textes ? Ou est-ce que ça fait partie de vos goûts musicaux ?
Oh, j'ai toujours aimé Dylan. J'aime moins ce qu'il est aujourd'hui en concert, parce que les concerts, c'est souvent n'importe quoi. Mais effectivement, les premières chansons pendant 20 ans sont extraordinaires.
Alors, j'en reviens à Mick Jagger, Sacha Rince, que vous avez rencontré une bonne dizaine de fois. Ça n'a pas toujours été facile, parce qu'il peut être aussi charmant que odieux, et ça peut être un bonheur ou un supplice.
Oui, absolument. S'il est de mauvaise humeur, ou si vous posez une question qu'il met de mauvaise humeur, il peut devenir effectivement assez difficile.
Et ça vous est arrivé, je crois, un jour où vous aviez une longue interview de prévu qui a duré 13 minutes.
Oui, c'est à peu près, oui. Mais je jouais de malchance ce jour-là. C'était à Londres. Et c'était à l'époque où il était séparé des Stones. Les Stones officiellement n'existaient plus. Et lui, il démarrait une carrière solo. Et il devait partir en tournée quelques jours plus tard avec Jeff Beck à la guitare. Et pendant notre entretien, son secrétaire est venu le voir en disant « il faut que je vous dise quelque chose ». Donc il est parti une vingtaine de minutes, et quand il est revenu, c'était fini. Parce qu'en fait, on venait de lui apprendre que Jeff Beck avait téléphoné pour lui dire que finalement, il ne partirait pas avec lui.
Et puis il ne supportait pas non plus que Madonna soit dans ses pattes.
Il était pas. Oui, ce jour-là, c'était Madonna venait à Londres. Elle faisait la une de tous les quotidiens, et ça l'agaçait un peu. Oui.
Quand on pense qu'il a voulu être comptable au début et pas chanteur, il a remplacé les lettres par des notes. Et puis vous racontez un concert à Osaka que peu de gens connaissent, où il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, Sacha Rince.
Donc quelques semaines plus tard, il fait sa tournée japonaise sans Jeff Beck. Et le hasard fait que j'étais là-bas à ce moment-là pour faire une interview de Tina Turner. Et oui, vous faites allusion à son entrée en scène,
oui.
C'est ça? Oui. Et donc, il était là et je suis allé le voir pour les concerts solo. Et il a fait un truc incroyable. Il était planqué derrière la table de mixage. Et au moment où ça a commencé, il s'est levé et il a traversé la foule pour aller vers la scène. Et il pensait que les Japonais, toujours très très calmes, ne réagiraient pas. Or, ils se sont jetés sur lui. Ils sont devenus totalement fous. Et j'ai cru qu'ils n'arriveraient jamais. C'était 10 fois pire que Johnny au Parc des Princes.
Ça aurait pu se terminer tragiquement.
Oui, absolument.
On raconte aussi qu'il a eu une histoire avec Brigitte Bardot.
Lui, dit que non.
Oui.
Oui, c'est ce qu'on dit, et lui dit que non, qu'il aurait bien aimé, mais qu'il aurait été à l'époque beaucoup trop timide.
Je pense aussi. En tout cas, Brigitte Bardot ne confirme pas non plus, donc il doit avoir raison. Et puis ce livre, on va l'évoquer à travers la date de sa sortie, le 15 juin 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Sacha Rince.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Vous faites bouger les lignes, vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir, vous êtes sensible à la richesse de nos territoires. Retrouvez chaque mois chez votre marchand de presse le magazine optimiste Eco-Réseau Business. Au menu, des conseils pratiques, des solutions, des portraits d'entrepreneurs inspirants, des entreprises qui font l'actualité et bousculent les codes. Pour 5 euros seulement, osez Eco-Réseau Business, le magazine de tous les entrepreneurs. Eco-Réseau Business, pour entreprendre, innover et positiver.
Sud Radio à Dijon, en DAB+.
Sud Radio.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Sacha Rince. On a évoqué votre parcours de critique, de journaliste musical, vos années avec B.B. King, et tout ça figure dans ce livre, sorti le 15 juin 2023, Rocambolesque chez Équateur. Pourquoi avoir raconté ce parcours aujourd'hui, alors que jusqu'à maintenant, vous parliez plutôt des autres, Sacha Rince?
Oh, parce que c'est une idée que j'avais depuis quelques années, et on me demandait régulièrement, mais pourquoi tu fais pas un bouquin, pourquoi tu nous racontes pas tes aventures, etc. Et il y a 2 ans, je me suis décidé à le faire et effectivement en profiter pour raconter les choses que je ne pouvais pas raconter à l'époque, c'est-à-dire qui auraient été hors sujet, et donner des détails sur comment je rencontrais ces gens-là.
Vous avez des archives, des souvenirs?
Mes archives, c'était les papiers que j'avais faits, que j'avais écrits à l'époque, oui. D'abord, j'avais quand même pas mal de souvenirs, et j'avais tous les journaux pour lesquels j'avais travaillé, je les avais encore, donc j'ai pu retracer mon parcours en feuilletant les vieux Best, les vieux Points, Elle, etc.
Oui, il y a eu Elle, il y a eu Paris Match aussi où vous avez travaillé. Alors, il faut savoir que le métier de critique musicale, il n'est pas facile, il est à la fois complexe et subjectif.
Oui, c'est dit. Mais j'étais moins critique musical. Je faisais pas. Enfin, j'essayais de faire le moins de critiques possible. Je préférais raconter des histoires ou publier des interviews. Mais critiquer un disque, je le faisais au début dans Best et ensuite non, ça ne m'intéressait plus.
Oui, et ce qui vous intéressait, c'était d'avoir la vérité. Et vous avez eu le flair de repérer ceux qui vous racontaient n'importe quoi, ce qui peut arriver.
Oui, il y en avait quelques-uns qui, effectivement, racontaient vraiment n'importe quoi.
Comment on sent ça, Sacha Reims?
Je ne sais pas à qui vous pensez la précision.
Oh non, mais en général, quand on sent que quelqu'un vous ment ou vous raconte n'importe quoi, il y a l'instinct du journaliste qui se réveille.
Oui, je m'en rendais compte. C'est généralement les gens moins connus qui racontent n'importe quoi. Les gens connus, non, n'ont pas besoin, en fait. Parce qu'ils...
Vous avez finalement réalisé votre rêve?
Ah oui, complètement, oui.
Vous imaginiez avoir rencontré toutes ces stars?
Non, jamais. Bien sûr que non.
Est-ce qu'il y en a qui vous ont déçu, d'autres qui vous ont plus que d'autres?
Déçu, non, pas franchement. Je veux dire, on ne devenait pas amis, ou c'était très rare. Moi, je suis devenu ami uniquement avec, je disais, Roger Daltrey. Et en France... J'ai effectivement deux amis, deux vrais amis, qui sont Julien Clerc et Laurent Voulzy. Et voilà, et c'est tout.
Oui, c'est pas les pires, effectivement.
C'est pas les pires, non, non.
Alors, c'est aussi une façon de travailler très particulière. Vous n'avez jamais pratiqué la langue de bois. On le sent dans le livre. Vous dites franchement que quelqu'un ne vous plaît pas, comme par exemple Lou Reed. Lou Reed, c'est une catastrophe.
Lou Reed était odieux. Lou Reed était insupportable. Mais, et d'ailleurs, à une époque, quand on se retrouvait entre journalistes de musique, on se racontait nos histoires de Lou Reed.
C'est-à-dire
ce qu'il nous avait fait, comment il avait été odieux, etc. Bah, ce type était insupportable.
Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il vous jetait?
Oui, il nous insultait, il nous jetait, il faisait tout.
Alors, il fallait de temps en temps l'interviewer?
Bah oui. Bah, moi, je courais plus trop après, parce que j'avais eu deux, trois trucs où il avait été tellement désagréable que je me suis dit, eh merde, pourquoi j'irais m'embêter une heure à New York pour voir un mec qui m'insulte?
Voilà. Et il se trouve qu'il avait, je crois, subi un traitement à 17 ans par électrochoc à la demande d'un psychiatre. Il avait commencé à composer des médicaments qui l'avaient rendu dépendant à la drogue et c'était peut-être la raison de sa violence verbale.
Peut-être.
Alors, il y a aussi quelquefois des ennuis involontaires que vous avez causés, comme par exemple à Roger Moore, un jour par un article qui lui a causé quelques soucis.
Ah oui, oui, puis j'étais désolé parce que c'était un homme charmant. Je l'avais rencontré à l'occasion de la sortie d'un film, je ne sais plus lequel, et bien sûr on s'est mis à parler de
James Bond.
De James Bond, oui, et... À l'époque, on cherchait le nouveau James Bond, on ne savait pas encore, et il y avait des rumeurs qui disaient que Idris Elba pouvait éventuellement devenir le nouveau James Bond. Et je lui ai demandé ce qu'il en pensait, et il m'a répondu, oui, Idris Elba, c'est un très bon acteur, mais je ne sais pas si c'est James Bond, parce que James Bond est quand même English. Je l'ai publié tel quel, je n'ai pas noté une once de racisme là-dedans, mais ça a été repris par la presse internationale et il a été traîné dans la boue comme raciste.
Mais c'est fou parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de racisme comme aujourd'hui.
Non, non, et le pauvre, vraiment. Donc j'ai reçu des coups de téléphone de journalistes anglais qui voulaient que je leur envoie la bande, etc., et qui me demandait ce que j'en pensais. Je dis non, pour moi, il n'y avait rien de raciste là-dedans. Effectivement, c'est comme si on disait aujourd'hui que Omar Sy va jouer D'Artagnan. D'Artagnan, voilà, il est gascon.
Et Roger Moore ne vous en a pas voulu?
Non, enfin, il a dit que le journaliste avait mal compris ce qu'il avait dit, bon, non.
Vous en êtes sorti comme ça, Sacha Reims. En revanche, ça s'est mal passé avec Michel Polnareff. C'est-à-dire qu'il vous a menacé d'un procès après un article qui ne lui a pas plu, je crois.
Oh oui. Polnareff, il est spécial, ce type. Oui, je l'avais vu une fois en concert à Los Angeles. Un concert épouvantable. C'était mauvais, c'était faux, les musiciens jouaient mal. Et ce concert-là est sorti en CD quelques mois plus tard, et c'était plus du tout le même. Tout avait été refait en studio, et je l'avais écrit.
Oui, bah c'est la vérité.
C'est la vérité,
et
oui.
Et vous en avez voulu.
Et il m'a appelé un jour, en pleine nuit, pour me dire, je vais te faire un procès. Je dis, bon, fais-moi un procès. procès.
Voilà, il n'a jamais fait de procès.
Non, bien sûr.
Moi, je me souviens de lui quand il devait préparer un nouvel album au Royal Monceau. Il a passé 8 mois dans une suite. Il était facile à voir. Il était tous les jours au bar à 14h en survêtement.
Absolument.
Il n'a jamais fait cet enregistrement.
Jamais.
Et puis, il y a aussi quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre vie, une autre légende. Most Beautiful Girl of the World, Prince. Prince et Prince, vous l'avez rencontré. D'abord, cette femme, c'est, il a eu les plus belles femmes du monde, Kim Basinger, qui a vécu avec lui sans rien dire à personne. Je crois qu'elle s'est installée chez lui. Et il y a même composé un album qui n'est jamais sorti, qui s'appelait Hollywood Affair, mais qu'on trouve sur Internet. Mm-hmm. Et Prince, vous l'avez rencontré?
Oui, je l'ai rencontré 2-3 fois, notamment chez lui à Minneapolis. Et c'était vraiment un être exceptionnel, difficile. C'est-à-dire... Je vais vous raconter une anecdote. J'étais allé le voir quelques jours après la naissance de son fils. Il avait son seul enfant, d'ailleurs. Et en allant à mon rendez-vous, je me suis arrêté dans un magasin de jouets et j'ai acheté un petit nounours que je lui ai offert en arrivant tout de suite en disant « c'est pas pour toi, mais je suis sûr que tu connais quelqu'un autour à qui ça fera plaisir ». Et il était absolument ravi, merci beaucoup, c'est formidable, il souriait. On a eu une excellente interview ce jour-là où il a été charmant. Et quand je suis parti, il m'a remercié encore pour le cadeau, donc pour son fils. Et je suis rentré à l'hôtel et j'ai appris à ce moment-là sur Internet que le bébé en question était mort 3 jours plus tôt.
C'est fou, ça.
Oui, totalement.
Il n'a rien dit.
Rien du tout.
En revanche, il s'est mis en colère lorsque vous avez osé émettre une critique sur lui.
Oui, 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 oui. J'ai osé envisager qu'on puisse critiquer sa musique. Et il m'a dit, mais ma musique vient directement de Dieu. Qui es-tu pour critiquer la musique de Dieu?
Moi, je me souviens de l'avoir croisé un jour dans une discothèque avec sa canne à pommeau à la main. Il était minuscule, mais tout le monde s'écartait sur son passage. Il y avait une sorte de... C'est assez étonnant.
Oui, il dégage. Et puis, quel grand musicien. Je l'ai entendu jouer des heures et des heures d'affilée après ses concerts normaux.
Et puis, alors, son rival, bien sûr, c'était Michael Jackson. Et ça, il ne le supportait pas.
Non, il n'aimait pas beaucoup Michael Jackson, non.
Pourquoi est-ce que c'était?
Parce que c'était son grand concurrent, qu'ils étaient sans arrêt comparés l'un à l'autre. Et voilà.
Et vous avez rencontré Michael Jackson, Sacha Reims, dans des conditions très particulières, je crois, au Vatican.
Ah, oui, oui, oui. J'étais au Vatican et je visitais, rappelez-moi le nom de l'église.
C'était une église du Vatican, une fontaine, oui.
Absolument, dans laquelle il y avait une statue célèbre. Oui. Et je regardais cette statue et quelqu'un est venu se mettre à côté de moi, c'était une femme. C'était une femme voilée, c'était il y a une vingtaine d'années, donc ça faisait une drôle d'impression. Moi, je n'avais jamais vu de femme voilée à l'époque. Pas voilée, elle était en burqa.
Oui.
Et bon, elle était à côté de moi, c'était un peu étrange. Et à ce moment-là, quelqu'un d'autre s'est installé de l'autre côté, et c'était Frank DiLeo, qui était le manager de Michael Jackson, que j'avais interviewé la veille. Et il me voit, on se reconnaît, il me fait un petit sourire avec un clin d'œil. Et à ce moment-là, je compris immédiatement, la femme en burqa, c'était Michael Jackson.
Il voulait être là et ne pas être vu. Et moi, je me souviens un jour avoir téléphoné à Liz Taylor pour une interview. C'est lui qui m'a répondu d'une toute petite voix. Il avait une voix mais vraiment d'enfant. Et il se cachait chez Liz Taylor régulièrement. C'est assez étonnant.
Oui, il était proche de Liz Taylor, oui.
Alors, il y a toutes les stars dont vous parlez, mais il y a aussi des stars hors de la chanson et de la musique dont vous parlez, notamment Brad Pitt, que vous avez connu à ses débuts, Sacha Reims.
Oui, pratiquement, début de sa grande carrière. Oui, je le rentrais à Los Angeles 2 ou 3 fois.
Alors, c'était pas le Brad Pitt qu'on connaît aujourd'hui?
C'est-à-dire
que c'était un garçon timide encore.
Ah oui, oui, il était très, très, très timide. C'était effectivement très difficile de le faire parler. Il parlait pas très bien à l'époque. Enfin, quand je lui posais une question, il répondait en une phrase. Et ensuite, il y avait un silence. Et à la fin de notre premier entretien, il m'a dit, je suis désolé, mais j'aime pas ça, je sais pas parler. Voilà, je suis désolé d'avoir été aussi peu bavard.
Vous imaginez la carrière qu'il ferait ensuite?
Oui et non. Oui et non, parce que, non, oui surtout, parce que quand elle est arrivée dans la pièce, on était tous éberlués, parce que c'était une interview en table ronde, on était 4 ou 5, par la beauté de cet homme. Je crois que c'est l'homme le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie. Donc, quand il est arrivé, il était évident qu'il ferait une grande carrière.
Alors, il se trouve qu'au départ, je ne sais pas si vous le savez, il a fait des études de journalisme à l'université du Missouri. Il voulait être journaliste et il a quitté la fac 2 semaines seulement avant de passer l'examen et avec un contrat en poche pour un journal américain.
Ah, je ne savais pas.
Il a changé d'avis. Alors, toutes ces stars que vous avez rencontrées, à chaque fois, sont des interviews groupées avec d'autres journalistes.
Non, non, pas toujours. Tête.
Non, non, pas toujours. Il y a les deux.
Il y a les deux, oui. Il y a les, ou les tables rondes où, effectivement, on peut être 3, 4, 5 avec lui, ou, les têtes, ou en tête à tête.
Est-ce qu'il y a des personnalités que vous regrettez de ne pas avoir rencontrées dans ce long parcours, Sacha Reims?
Oh ben oui, oui, bien sûr. Je n'ai jamais interviewé Bruce Springsteen. Je l'ai rencontré plusieurs fois. On a pris un jour un verre ensemble au bar de son hôtel, mais pas d'interview.
Et pourquoi?
Parce qu'il voulait pas.
Il y a comme ça des gens qui ne veulent pas. Il y a toujours 3-4 conseillers derrière qui vous empêchent quelquefois de faire l'interview.
Absolument. Absolument.
Là, c'est des barrages qu'il faut franchir. Comment on fait?
Il faut être patient et se montrer sympathique.
Vous avez beaucoup voyagé, vous avez fait des millions de kilomètres en 50 ans.
Oui, oui, j'ai calculé que j'étais allé à peu près, au cours de ma carrière, 500 fois aux États-Unis.
500 fois. Ouais. Et à chaque fois, en revenant avec des interviews d'un Français, ce qui n'était pas si courant, les gens ex-français aux États-Unis n'étaient pas toujours admis auprès des stars du rock.
Oui, mais vous savez, on était accueillis selon la notoriété du journal pour lequel on bossait. Donc effectivement, pour Best, c'était parfois un peu difficile. Mais quand je suis arrivé au Point ou à Paris Match, là, il n'y avait plus de problème.
En tout cas, il y a beaucoup d'anecdotes dans ce livre dont je rappelle le titre « Rocambolesque ». Et c'est vrai que vous avez vécu des moments totalement rocambolesques.
Totalement, oui.
Aux éditions Équateur, vous continuez à écouter de la musique et à travailler?
Toujours.
Et ça, vous n'arrêterez jamais?
Non, tant qu'on me demandera et que j'aurai l'énergie pour le faire, ben je le ferai.
Eh bien, continuez ainsi. Et je recommande à celles et ceux qui nous écoutent ce livre, plein de passion, que l'on aime ou non la musique. Merci Sacha Reims.
Merci Jacques.
Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Tout savoir sur le bien-être féminin avec Manae.
Bonjour Margot Blin.
Bonjour.
Vous êtes pharmacienne responsable de l'innovation chez Manae et vous nous parlez de Manae Solaire.
Oui, alors Manae Solaire, c'est une solution complète qui prépare, active et prolonge le bronzage. Mmh. Du coup, on obtient un hâle progressif, uniforme, plus éclatant et qui dure plus longtemps.
Très bien. Quel est le secret?
Eh bien, Manae Solaire associe des plantes, des pigments naturels et des micronutriments pour ensoleiller le teint, limiter le vieillissement cellulaire et nourrir la peau pour qu'elle reste éclatante tout l'été.
Ça, c'est parfait. Et où trouve-t-on Manae Solaire?
En pharmacie et parapharmacie.
Merci.
Ce produit ne dispense pas d'une protection solaire. Ces produits sont des compléments alimentaires. Ils ne doivent pas remplacer une alimentation équilibrée, variée et un mode de vie sain. Pour votre santé, bougez plus.
Sud Radio Avignon.
95.2.
Sud Radio.
Sud
Radio.